Hello everybody, please take your...
Bonjour à tout le monde, Thomas Schneider prend la parole. Bonjour à tout le monde. Je vous demande de bien vouloir vous installer à vos places. Nous allons commencer notre travail. Ce soir, vous aurez beaucoup de temps pour vous entretenir. Il y aura aussi d'autres occasions de parler. Donc, s'il vous plaît, installez-vous à vos places. Merci.
Okay, welcome
Thomas Schneider prend la parole. Alors, soyez tous les bienvenus à la réunion du GAC. La 53e réunion de l'ICANN à Buenos Aires. Je m'appelle Thomas, je viens de la Suisse. Je suis vraiment très heureux d'être ici avec vous tous. Pour commencer notre réunion, vous avez tous reçu l'ordre du jour. Comme d'habitude, nous allons faire une présentation rapide. Vous allez tous vous présenter pour que nous sachions tous quelles sont les personnes ici présentes dans la salle. Avant cela, je vais vous dire que depuis la dernière réunion, nous avons deux nouveaux membres, Maurice et Kiribati. Donc maintenant, vous êtes 152 membres. Nous allons commencer ici, de ce côté, pour que tout le monde puisse se présenter rapidement. Bonjour, je m'appelle Tracy Hind. Je viens du secrétariat du groupe pour l'amélioration continue de l'Australie. Bonjour, je suis Gemma Campillo, je viens de l'Espagne. Bonjour tous. Bonjour à tous. Soyez tous les bienvenus dans mon pays, en Argentine et dans ma ville. Je m'appelle Olga Cavalli. Je suis la représentante de l'Argentine au sein du GAC et je suis vice-présidente du GAC. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin de quelque chose à propos de notre ville, veuillez me le faire savoir, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Thomas Dale du secrétariat du GAC et du groupe d'amélioration continue de l'Australie. Bonjour. Je m'appelle Sangolduffel, je viens de la Turquie. Bonjour, je m'appelle Henry Kansen de la Namibie. Bonjour, je m'appelle Wanawi Wakuputra de la Thaïlande. All of Nordling, du personnel de l'ICANN pour le soutien au GAC. Bonjour à tous, je m'appelle Tredoal Hosseini du Maroc. Merci l'Argentine de nous avoir accueillis, nous tous. Alice Mounois de la Commission de l'Union africaine. Amiga Noches de la Commission européenne. Je sais qu'il y a certains collègues qui arrivent, mais comme il s'agit des Européens, il va falloir qu'ils déjeunent avant de commencer la réunion. Turley Advan de la Danemark. Edwin Peterson du Danemark, Anna Neff du Portugal, Rafael Pérez de l'Espagne, Manal Ismail de l'Égypte, Ever Rupert, représentant du gouvernement du Naoui. Je viens représenter le gouvernement du Brésil. Je m'appelle Pedro Souvar. Je viens du ministère des Communications du Brésil. Bonjour, Pininacoba de la Thaïlande. Bonjour, Panacom de la Thaïlande. Bonjour, Atabinhom de la Thaïlande. Bonjour, je m'appelle Gemaruchi du Japon. Bonjour, Akihirot du Japon aussi. Bonjour à tous, Susan Radel des États-Unis. Bonjour à tous, Peter Needlefold de l'Australie. Bonjour, Annalise Williams de l'Australie. Bonjour, Nicholas Todorf de la Nouvelle-Zélande. Bonjour à tous, Anne Ristoff du gouvernement du Canada. Bonjour, Hélène Dorgan du gouvernement du Canada. Bonjour, Marc Harvel du Royaume-Uni, du département de la culture, des médias et du soutien. Bonjour, Lauren Schaeffner du ministère allemand de l'énergie et des questions liées à l'Internet. Sabine Germain de l'Allemagne aussi. Bonjour, je m'appelle Christian Singer, je viens de l'Autriche. Bonjour, Kavou Zaraste de l'Iran. Un autre représentant de l'Iran aussi. Bonjour, Lise Imbelek de la Norvège. Bonjour, Olof Stolle de la Norvège aussi. Bonjour, Thomas Zahan du ministère hollandais des Affaires étrangères. Je viens de l'Israël. Bonjour, Ricardo de la Colombie. Bonjour, Sanandomphom de la Corée du Sud. Bonjour, je m'appelle Wuyang King de la Corée du Sud aussi. Bonjour, Brian Backham de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Bonjour, John Bosaroff de l'Organisation pour la coopération et le développement économique. Bonjour, je suis Christo de la Bulgarie. Bonjour, Uma Stesso de la Suède. Bonjour, Laura Canchet du Mexique. Bonjour, Lef Den Soi du Singapour. Bonjour, Chaf Chou du Singapour. Bonjour, Nita Fortin de l'Italie. Ministère du Développement, Mauro Milita du Vatican. Bonjour, Maura Gambassi de l'Italie. Bonjour, Peter Major de la Hongrie. Bonjour, Mail du Vietnam. Bonjour, Sop Lak Thang du Vietnam aussi. Bonjour, Jorge Cancia de la Suisse. Bonjour, Stéphane Bonelav de la Suisse aussi.
Buenos días, soy la representante de Gabón. Vengo de Benin.
Bonjour, je viens de l'Uruguay. Bonjour, Amparo Arango de la République dominicaine. Bonjour, je viens de la Suisse. Je m'appelle Reynaldo Reinlich. Bonjour, je viens aussi de la Suisse.
Buenas tardes, vengo de l'organización. Buenas tardes, soy el representante de Guinea. Buenas tardes, Michel Sunon de Camerún. Buenas tardes, Logan Ferrari de Francia. Damien Coudeville de Francia.
Bonjour, Maciej Kieszewski de la Pologne. Bonjour, Chen Chang-Chu, je viens du Taïwan. Bonjour, je m'appelle Sachfield, je viens de l'Indonésie. Bonjour, je suis Geoffrey Mani de la Belgique. Bonjour, je m'appelle Jeanne Fermien de la Belgique. Bonjour, Waking Mary de la Jamaïque. Bonjour, Ben Thomas de la Jamaïque. De la Dominique. Bonjour. Je viens de l'OEF, de la francophonie, la France.
Buenas tardes.
Dorji Nazer, je viens du Tchad.
Buenas tardes.
Bonjour, je m'appelle Jean Carletti de l'Argentine. Bonjour, Eugenia Vincenzi de l'Argentine. Bonjour, je m'appelle Annelies Malone de l'Indonésie. Bonjour, je m'appelle Andy Chang, je viens de la Thaïlande. Taïwan, pardon. Angela Taizin du Singapour.
Buenas tardes, Emmanuela Gogi de la Organización Internacional de la Francofonía.
Bonjour.
Buenas tardes, Pisa Sitemina del Ministerio de la TIC del Congo, Kinshasa.
Bonjour, je viens de la Namibie. L'Angel Casimir de l'Union des télécommunications des Caraïbes, basée à Porto España, je viens de la Nigeria, du Nigeria. Nicolas Cavagera de Cenetix du Paraguay. Je m'appelle de Buffot, je viens de la Fédération russe. Thomas Schneider prend la parole. Alors, merci beaucoup. Nous sommes de plus en plus diversifiés dans cette salle, ce qui est très bon d'ailleurs. Je vais passer la parole à nos collègues d'ACIG, du groupe australien pour l'amélioration continue, pour qu'ils nous présentent, fassent un tour d'horizon de la semaine. Tom Dale prend la parole. Merci, Thomas. La réunion du GAC de cette semaine sera centrée sur différents objectifs, dont les deux premiers, qui prendront la plupart du temps disponible et du temps disponible pour les débats dans l'ordre du jour, concernent ce qui suit. Se mettre d'accord sur une proposition définitive du groupe du groupe intercommunautaire de travail concernant la transition des fonctions IANA. Il s'agit d'un exercice et il y a une date butoir pour le GAC, c'est ce jeudi, pour parvenir à présenter une position en tant qu'organisation membre. Nous avons des séances qui commencent demain et qui se poursuivent jusqu'à mercredi. Et il y a d'autres réunions en dehors du GAC, partout dans la communauté. Cela se fera pendant toute cette semaine de réunions de l'ICANN. On verra donc différentes séances d'information du CCWG. La deuxième priorité est de demander au GAC de préciser des points importants concernant le groupe intercommunautaire de travail sur la responsabilité de l'ICANN. Et c'est ce que nous connaissons comme le CCWG. Nous allons aussi devoir présenter des commentaires au CCWG à la fin de la semaine sur la plupart de leurs propositions. Cela va continuer à être fait pendant les débats qui auront lieu en dehors du GAC pendant la semaine. Nous allons travailler aussi sur la structure des groupes de travail du GAC. Il y a de nouveaux groupes de travail dont certains se réunissent pour la première fois pendant cette semaine. Ils sont énumérés séparément dans l'ordre du jour, mais le GAC va envoyer et va faire des tâches concernant ces groupes de travail, concernant la protection du consommateur, la mise en application des lois, tout ce qui concerne le droit de l'homme et le droit international. Il y a aussi un autre groupe de travail s'occupant de la participation du gouvernement, un autre pour la protection future des noms de géographiques en tant que de noms de domaine de premier niveau, un autre avec la participation du GACONOMCOM, et peut-être un nouveau groupe de travail concernant les demandes de candidature des communautaires pour les nouveaux GTLD. Quant aux nouveaux GTLD, qui sont les noms de domaine de premier niveau générique, il y a aussi une séance du GAC concernant les sauvegardes. Pendant cette étape, pendant cette série qui fera l'objet des discussions cet après-midi, il y aura aussi une discussion sur les problèmes qui pourraient se présenter dans les prochaines étapes ou les prochaines séries. Et nous allons voir aussi ce qui se passe avec le produit des enchères qui fera l'objet d'un débat lors de la réunion de haut niveau des SO et des AC. Le GAC participe aussi à d'autres points de la communauté de l'ICANN. Nous allons avoir lundi une autre réunion avec la GNSO pour parler du développement des politiques ou l'élaboration des politiques pour la GNSO. Le GAC va participer avec la CCNSO pour tout ce qui concerne les GTLD, avec le comité consultatif at large, ainsi qu'avec le comité SSAC. Voilà donc les réunions qui seront tenues pendant la semaine. Le GAC va aussi discuter des différents points concernant les questions liées à la gouvernance de l'Internet en ce qui concerne l'ICANN et sa participation au CMSI plus 10, ainsi que le groupe intercommunautaire de l'ICANN sur la gouvernance de l'Internet. Donc, vous avez eu un tour d'horizon très rapide de ce qui va se passer pendant cette semaine. Je crois que nous devons avoir un certain nombre de commentaires pour voir les priorités de la semaine. Et voilà donc comment l'ordre du jour a été structuré. Maintenant, si Thomas me le permet, je vais demander à Tracy de nous donner une partie de l'information sur les questions administratives très importantes sur lesquelles il faut que nous soyons au courant. Parce que je sais que si quelqu'un n'est pas dans la liste des personnes présentes, je sais qu'il y a des problèmes. Donc Tracy va vous dire donc un peu comment on va faire l'appel ou comment on va faire les choses pendant cette réunion. Tracy prend la parole. Il y a une méthode différente que nous allons mettre en œuvre cette fois-ci. Vous pouvez voir que à côté des portes, sur les murs à droite de l'extincteur d'incendie, il y a des feuilles que moi j'ai mises là. Et ce que nous vous demandons, c'est de bien vouloir écrire votre nom et le pays dont vous venez sur ces feuilles qui sont là, à côté de la porte, à droite. Il y a aussi des instructions, je crois qu'elles sont en français et en anglais. C'est un système manuel très simple et nous espérons donc que cela nous permettra de savoir de façon exacte les personnes présentes pendant les 5 journées pour que l'on puisse enregistrer cette information. Afin de vous encourager à le faire, nous avons un prix que nous allons attribuer à ceux qui seront, qui auront assisté à toutes les journées. C'est un maté argentin, très beau. C'est un maté, c'est une boisson argentine. Je n'oserais pas dire. Enfin, je ne risquerai pas de vous expliquer les règles professionnelles pour boire du maté, mais je pense que Olga peut le faire. Je devrais dire aussi, excusez-moi, non, mais je devrais dire que nous allons le donner mercredi. Thomas Schneider prend la parole. Merci, Tracy. Espérons que cela va donner des bons résultats. Voilà, c'est tout pour le premier point de l'ordre du jour. Faudrait-il faire des commentaires sur l'ordre du jour? Est-ce que quelqu'un aurait quelque chose à dire? C'est le moment de faire des commentaires là-dessus, si quelqu'un veut en faire. L'un des points concernant l'ordre du jour sur lequel je veux insister, même si nous en avons parlé pendant les communications téléphoniques que nous avons eues auparavant, vous allez voir que l'un des points importants pour cette réunion, non seulement pour le GAC, concerne le processus de la transition des fonctions IANA et le processus de responsabilité. Nous avons employé beaucoup de temps pour faire cet ordre du jour, pour pouvoir en parler, pour parvenir à un consensus sur la position du GAC concernant ces sujets. Surtout pour la séance de dimanche matin. Parce que là, nous allons voir si nous aurons besoin de plus de temps et nous allons donc modifier l'ordre du jour pour pouvoir consacrer davantage de temps à ce point-là. Bien sûr, avec votre autorisation. Mais nous essayons de maintenir l'ordre du jour tel qu'il est. Mais si nous estimons qu'il faut le modifier, nous pouvons le faire demain. Demain, lorsque... Enfin, c'est juste pour que vous le sachiez. Un autre renseignement que je veux vous présenter, c'est vous avez peut-être vu dans les courriels, dans la messagerie électronique, on vous a invité à manger et boire la maison qui est de l'autre côté de la rue, en face, oui. Il faut dire aux gens du restaurant combien nous allons être là. Si quelqu'un n'a pas encore pu répondre au courriel, il n'a pas pu s'inscrire, bien sûr, il ou elle pourra y assister, mais je vous demande, s'il vous plaît, de le dire à Julia Charvolin au plus tôt possible. Julia fait partie du personnel de l'ICANN et elle travaille très dur pour que nos réunions puissent avoir lieu. Je vous demande, s'il vous plaît, d'envoyer un mail à Julia ou de m'envoyer un mail à moi ou à Olga. Personne ne sera exclu de ce dîner, mais nous avons besoin de savoir combien de personnes vont être présentes au restaurant. Oui, l'Iran. L'Iran prend la parole. Merci beaucoup, Thomas. Quant aux activités de l'ICG, comme l'un des cinq membres de l'ICG en représentation du GAC, ce serait peut-être bon d'avoir l'occasion d'informer très rapidement le GAC des activités de ce groupe. Tous les commentaires qui pourraient être faits au cas où cela n'aurait pas été inclus dans l'ordre du jour, si vous les avez déjà, je vous prie de nous donner l'occasion de faire ces commentaires, moi ou mes autres collègues, pour pouvoir vous expliquer un peu le travail de ce groupe.
Merci beaucoup, vous avez raison, l'ICG n'est pas mentionné explicitement, mais nous savons que cela fait partie de la discussion sur le processus de transition et cela sera prêt demain. Merci beaucoup de nous avoir fait remarquer que l'on ne doit pas seulement parler de CWG, mais aussi de l'ICG comme faisant partie de ce processus. Merci beaucoup. Je vois qu'il n'y a plus de commentaires. Par rapport à l'ordre du jour, ah voilà, il y a une main levée, les États-Unis, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Un commentaire rapide par rapport aux amendements spécifiques aux principes opérationnels. Cela est inclus dans l'ordre du jour pour aujourd'hui et aussi pour jeudi. Je voudrais donc savoir si la séance de jeudi pourrait être faite pendant la matinée parce que ce matin-là, il y a une autre réunion de CCWG, alors peut-être il y aura des conflits. La question importante des principes opérationnels pourrait être traitée au petit matin. Merci beaucoup. Schneider prend la parole. Merci d'avoir signalé cette question. Je regarde Henry, mon collègue. Je veux lui demander s'il est d'accord du fait que cette séance soit changée à un autre moment. Il y a les items, changer les deux points 29 et 30 pour que ce soit possible de participer des deux réunions en parallèle. OK, on a déjà pris note. Merci. Ceci dit, nous passons maintenant au point numéro 2. qu'il s'agit là d'une question où l'on essaie d'augmenter la transparence, la prise de conscience ou la connaissance et la traçabilité de notre travail, les faits de nos activités, en particulier par rapport aux conseils, aux avis que nous avons donnés et que nous allons continuer de donner au conseil d'administration. Nous voyons qu'ils soient plus clairs, plus visibles et que les faits de notre avis soient pris en compte, que l'on ait pris en compte ce que l'on a déjà considéré. Ceci a été enregistré au site web du GAC, mais cette information n'a pas été utilisée. L'idée est donc d'initier un processus pour faire le suivi de nos avis et voir d'une manière systématique quels ont été les effets de nos avis. Je passe maintenant la parole à Tracy qui va vous présenter une proposition par rapport à la manière dont on peut faire en sorte que ce travail soit plus visible. Tracy prend la parole. Merci, Thomas. C'est une présentation que vous voyez là sur l'écran. C'est quelque chose qui est inclus dans les documents que nous vous avons envoyés. Voilà l'approche proposée pour considérer la question. Une question qui nous indique que se passe-t-il avec l'avis du GAC une fois que cet avis est donné et comment pourrait-on éventuellement le partager avec les membres du GAC. Aussi, une manière de mesurer si les résultats pour ce qui est des politiques publiques deviennent meilleurs ou s'améliorent. Nous proposons d'analyser différentes parties de la vie du GAC, ce qui est ici dans la dernière diapo que vous voyez. Il y a différents avis que nous avons donnés entre la réunion de Prague et la réunion numéro 52 de Singapour. On a des études de cas avec ces avis en particulier. Il faut les mesurer en fonction de ce que vous voyez dans la diapo 3 où nous parlons de la qualité de cet avis. Nous pouvons déterminer si la qualité est bonne ou pas si bonne que ça, suivant les aspects que nous allons voir du côté de la mise en œuvre, si les différentes parties prenantes ont pu contribuer, si ces contributions ont été prises en compte, si cet avis a été mis en place dans son ensemble et si les résultats ont été clairs par rapport à ce processus ou bien si les résultats n'ont pas été très clairs. Alors, voilà ce que nous proposons depuis le GAC avec le secrétariat ACIG. Nous allons faire un rapport de toutes nos conclusions que nous allons analyser à Dublin et bien entendu, vous pouvez faire une révision, voir s'il y a des modifications à suggérer sur la manière de présenter l'avis du GAC ou la rédaction de cet avis ou la manière dont on conserve les enregistrements pour voir si on peut faciliter le travail pour que vous puissiez parler des améliorations obtenues comme résultat de notre travail que l'on fait dans les différents groupes. Voilà ce que j'avais à vous dire, à moins qu'il y ait des questions dans la salle. Thomas Schneider prend la parole. Des questions? La Suède. La Suède prend la parole. En réalité, ce n'est pas une question. Je voudrais dire que nous soutenons cette initiative dédiée à réviser l'efficacité de l'avis du GAC. Et peut-être pourrions-nous ajouter encore un élément à l'efficacité. Peut-être pourrions-nous considérer une révision de la clarté de l'avis du GAC lui-même. C'est-à-dire, si ceux qui reçoivent l'avis comprennent bien ce que nous voulions dire. Bien évidemment, le Conseil le comprend, mais les autres parties de la communauté, je ne sais pas si cela est possible, si cela est nécessaire, mais c'est toujours une option à en tenir compte. Merci. Thomas Schneider, merci la Suède. Dans ce contexte, je voudrais aussi vous rappeler que nous avons reçu différentes recommandations et demandes des ATRT et d'autres entités comme la GNSO par rapport au fait qu'il faudrait fournir des fondements pour notre avis. Ceci a été incorporé et nous essayons de justement de formuler notre avis dans les termes le plus clair possible pour nous assurer qu'il soit bien compris et pour augmenter les possibilités qu'il soit bien compris. Alors, nous prenons note de votre observation et de votre demande. Nous allons voir si on peut l'incorporer. D'autres questions? L'Iran. L'Iran prend la parole. Merci. Merci au secrétariat de nous avoir fait parvenir ces documents si utiles. Je me demande s'il faudrait dire efficacité de la documentation ou la mise en œuvre. Parce que si l'on parle de l'efficacité, peut-être on aura l'impression que l'on parle du fait si l'avis a été efficace ou pas. Mais ce qui nous intéresse, c'est le degré de mise en œuvre de cet avis. Et d'après les statuts constitutifs, nous parlons de la mise en œuvre de la part du Conseil quand ils reçoivent notre avis, que notre avis est analysé et peut procéder à la mise en œuvre ou pas. Peut-être faudrait-il ajouter mise en œuvre en plus d'efficacité ou l'effet et la mise en œuvre de notre avis parce que ici, il y a quelque chose dont on a parlé au CCWG et c'est justement ça dont on a parlé et cela a été modifié pour éviter de donner l'impression que notre avis était efficace parce que nous visons à ce que notre avis soit efficace. Ce qui est important, c'est la mise en œuvre et si on peut faire le suivi aussi. Merci. Tracy Hind, merci. La mise en œuvre est sans doute quelque chose que nous prévoyons. Ce n'est peut-être pas très clair dans la présentation. Merci. Le président Schneider prend la parole. Le Royaume-Uni prend la parole. Merci, Monsieur le Président. Je reviens à votre commentaire sur le fait de fournir les fondements de notre avis. Je veux dire, un aspect de l'analyse de l'efficacité du GAC pour transmettre son avis, c'est justement les modalités utilisées. Si on parle d'une narrative ou par écrit ou pour faciliter l'articulation du communiqué ou s'il s'agit d'un forum physique où l'on peut présenter cet argument de l'avis du GAC, en nous réunissant avec les membres de la communauté, voulant savoir comment le GAC est arrivé à élaborer cet avis et son contenu. C'est peut-être une option qu'il faudrait tenir compte dans la révision. Je soutiens l'initiative sans aucun doute. Merci. Le président Schneider prend la parole. Bien entendu, il y a différents éléments sur la manière de donner ce fondement. Il est clair que nos mots, notre rédaction doit être aussi claire que possible, sans ambiguïté. Et nous pouvons aussi expliquer nos fondements de manière individuelle ou de manière bilatérale dans des réunions publiques. C'est-à-dire que c'est notre premier essai et alors peut-être nous pourrons voir au fur et à mesure les résultats de ces premières démarches et puis en discuter et voir la manière de les améliorer, de les corriger. Mais je prends dûment note et nous croyons que cela est nécessaire. Je remercie au secrétariat de mener à bien cet exercice. D'autres observations ou d'autres questions? Il semblerait qu'il n'y en a pas. OK. Alors, nous passons maintenant au point suivant de notre ordre du jour. C'est incroyable, mais on est en avance avec notre ordre du jour. On va voir combien de temps ça dure. C'est le point numéro 3, à savoir les amendements spécifiques aux principes opérationnels. Pour les nouveaux venus ou ceux qui n'ont pas participé auparavant de nos réunions, je veux vous rappeler que en octobre, à la réunion de Los Angeles, nous avons fait des élections. Et l'idée originale était de choisir un président et 3 vice-présidents. Par la suite aux élections, il semblerait que c'était correct d'augmenter la quantité ou le nombre des vice-présidents à 5 afin de permettre une plus grande diversité au niveau régional pour ce qui est du personnel de direction du GAC. Et alors, nous avons profité de l'occasion c'est-à-dire que les principes opérationnels nous permettaient d'avoir d'autres fonctionnaires que nous appelons vice-présidents, bien que nous ayons décidé que, du point de vue un peu plus informel, il faudrait passer à quelque chose de plus formalisé. Alors, on a lancé une procédure officielle pour amender les principes opérationnels sur cette question en particulier, à savoir changer les vice-présidents de 3 à 5 et modifier quelques éléments moins importants des dispositions sur les procédures d'élection qui figurent dans nos principes opérationnels. C'est la première fois que nous avons fait ce type d'élection et nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des choses qui n'étaient pas très claires et qui étaient un peu problématiques. Nous avons donc décidé d'initier cette procédure pour corriger ou amender les principes opérationnels avec certains petits changements sur la base d'un accord qu'il fallait le faire. Nous avons aussi signalé qu'on a le sentiment partagé que la totalité des principes opérationnels devraient être révisés. Ceci est quelque chose que l'on a essayé de faire à plusieurs reprises dans le passé, mais il y a toujours eu une question plus urgente ou plus importante qui a eu la priorité et on ne l'a jamais fait. Cette révision n'a jamais été effectuée. Alors, à Los Angeles, nous avons pris cette décision et cette décision a été reconfirmée à Singapour. Il y a 2 processus. Premièrement, celui que l'on essaie de faire aujourd'hui, si possible, accorder les changements mineurs pour permettre d'avoir 5 vice-présidents et un mécanisme robuste pour mener à bien les élections. Et aussi une révision des principes opérationnels qui peut exiger davantage de temps parce qu'il peut y avoir différentes opinions sur le fait s'il faut modifier ou pas certaines parties de ces principes opérationnels. Et voilà ce que l'on va discuter jeudi dans le cadre du bloc de questions internes du GAC. Alors, gardez à l'esprit qu'il y a 2 processus en cours pour que tout soit bien en place avant d'effectuer les prochaines élections des vice-présidents qui auront lieu en octobre à Dublin. Nous devrions donc corriger ceci maintenant. Voilà donc pourquoi nous avons commencé à traiter la question ici. Et puis, toutes les autres possibles modifications aux principes opérationnels peuvent être révisées ou prises en compte dans un processus un peu plus long. Et là, on en reparlera plus longuement jeudi. En ce qui concerne la présentation de ce qui s'est passé depuis la dernière réunion, y compris l'information ou les commentaires que vous nous avez fait parvenir pendant la période de commentaires publics de 60 jours. Je voudrais maintenant passer la parole à Tracy pour faire la présentation correspondante. Tracy Hine prend la parole.
Bon, alors, dans l'annexe A que vous avez sur l'écran, en ce moment, nous avons eu des commentaires fait par 4 membres du GAC. Je ne vais pas les lire, vous pouvez les voir dans les documents que vous avez à votre portée. Le travail que nous allons faire aujourd'hui, c'est de décider d'accepter ou pas ces amendements, enfin de moindre importance, tels qu'ils sont présentés dans ce document informatif. Et nous allons souligner que nous avons ici des suggestions faites par différents membres du GAC. Julia, c'est comme ça. Nous allons voir maintenant l'annexe B, qui est le prochain document. J'ai voulu dire la page suivante de ce document, pardon. C'est justement l'annexe B. Dans ce document qui va être projeté maintenant, si nous continuons à avancer, là, voilà, c'est ça. Dans cette version du document qui apparaît sur l'écran maintenant, les amendements que nous vous demandons de considérer ou d'examiner sont surlignés en jaune. Elles ont été soumises aux commentaires publics. On a mentionné l'augmentation du nombre de vice-présidents de 3 à 5. Nous pensons qu'il n'y aura pas de polémique là-dessus, que la plupart des gens, des membres le soutiennent, ainsi que des élections sous un format électronique au lieu de faire des élections en présence. Pour les commentaires en bleu, vous allez voir qu'il y en a donc des commentaires qui sont surlignés, qui correspondent aux membres du GAC et qui concernent les principes. Nous allons peut-être considérer le principe 32, Julia, et nous allons voir là de quoi je vous parle. Vous pouvez voir là, sur l'écran, le principe numéro 32, qui a un amendement qui est proposé, ainsi qu'une suggestion qui est faite. Ce que nous demandons au GAC pour aujourd'hui, c'est de faire deux choses. D'une part, de nous dire si vous acceptez ces amendements de moindre importance qui apparaissent sur ce document surligné en jaune, ou si vous acceptez ceux qui sont en bleu. Je peux peut-être vous céder la parole. Tom Dale prend la parole. Je vais faire une suggestion, Thomas. Le GAC peut-être considérer ou examiner en premier lieu les amendements proposés pour les vice-présidences supplémentaires et considérer ensuite la question des amendements à apporter aux procédures. Je crois que ce serait l'ordre logique. Donc, on débattrait en premier lieu la proposition d'amendement pour le principe 21, 25 et 32 concernant l'augmentation du nombre de vice-présidents de 3 à 5 pour le GAC. Je ne sais pas si le GAC est d'accord sur ces modifications pour avoir jusqu'à 5 vice-présidents. Thomas Schneider prend la parole. Merci, Tom. Nous allons donc commencer par vous demander... Oui, l'Iran. L'Iran prend la parole. Merci au secrétariat d'avoir attiré l'attention du GAC sur ces amendements proposés. Je crois qu'au point de vue juridique, il y a une différence entre 5 et jusqu'à 5. Lorsqu'on dit 5, c'est 5. Si l'on dit jusqu'à 5, on peut en avoir 2, 3 ou 4. Je ne suggère aucune des deux options, mais je veux préciser devant les collègues qu'il faudrait peut-être considérer ce type de problème qui sont apparus dans d'autres organisations internationales lorsque nous disons jusqu'à X. Lorsque l'on dit jusqu'à, il y a une interprétation possible. Alors, ce que je dirais, c'est que avant de parler dans les prochaines réunions, si nous allons dire combien de personnes nous allons voter ou si nous allons établir cela dès maintenant. Thomas Schneider prend la parole. Merci. L'Iran, vous avez raison. Avant, on disait jusqu'à 3 et on a toujours eu 3 vice-présidences. Je ne sais pas ce qui se passerait si un vice-président était dans une réunion. Je ne sais pas si cela nous permet d'être plus flexibles ou si l'on peut avoir un peu moins de vice-présidents que le chiffre maximal qui est proposé.
Personnellement, je ne vois pas d'opposition pour modifier cela, parce que nous voulons en avoir 5. Mais si nous disons, si nous voyons qu'il n'y en a pas plus de 4 qui se présentent, il n'y en a que 4 qui se présentent, nous allons avoir à encourager les gens à présenter leur candidature. Donc si l'on dit jusqu'à 5, l'on peut, avec cette expression, l'on peut couvrir tous les cas possibles sans avoir à apporter de modifications. Mais je vais reposer la question à tout le monde. Est-ce que quelqu'un s'oppose aux 3 modifications sur les paragraphes dont Thomas a parlé qui concernent le nombre de vice-présidents. Il semblerait bien que personne ne s'y oppose, donc c'est une décision qui a été prise. Cela facilite notre vie, notre travail pour la prochaine élection. Nous allons donc maintenant aborder le prochain point. Tracy, ou je ne sais pas, est-ce que quelqu'un voudrait faire une liste des paragraphes où il faut apporter des amendements, de petits amendements aux modifications des votes? Tracy Hind prend la parole. Les modifications concernant les procédures d'élection se trouvent à la page 2, le principe 32, le principe 31, surtout c'est le principe 35 et le 36 qui ont beaucoup de modifications apporté. Et la modification principale qui serait introduite, mis à part ces amendements de moindre importance, c'est de changer les élections de la modalité en présence, comme cela a été le cas pour la dernière élection, et de faire cela en modalité électronique, en modalité numérique, qui durerait plus longtemps, mais avant la réunion, et l'on espère finir les élections dans les quelques jours avant la réunion. Il y aurait donc une période d'élection plus longue, unique, et ce serait plus simple. Voilà ce que nous voudrions modifier pour ce qui concerne les élections. Dans la proposition faite par le document de la CIG, et consiste en ceci, de faire une élection par voie électronique et pas une élection en modalité personnelle afin de pouvoir réaliser les amendements de moindre importance. Je veux dire que la Nouvelle-Zélande, la Commission européenne et l'Espagne ont fait des commentaires sur les principes 35 et 36 . Et moi aussi, j'ai suggéré que le vote se fasse en modalité en présence, ainsi que la modalité électronique. Je crois. Thomas, on pourrait peut-être diviser ça. Il faudrait savoir si tout le monde veut adopter la modalité électronique. La question, disons, qu'il faudrait poser serait, faudrait-il voir les propositions de la Nouvelle-Zélande, de la Commission européenne, de l'Espagne, parce que pour ce cas particulier, on parle de modalités en présence pour l'élection. Ou ce serait peut-être plus approprié de diviser ça en 2 questions. Thomas Schneider prend la parole. Merci, Tracy. Je crois que nous pourrions traiter la question paragraphe après paragraphe, pour voir si nous pourrons les adopter. Et s'il y a eu des commentaires, je demande à ceux qui les ont faits de bien vouloir les expliquer. Tracy Hind prend la parole. Le premier paragraphe concerne le principe 32. Nous avons déjà parlé des 5 vice-présidents, mais la suggestion de l'Australie était de apporter une modification au texte de ce principe pour que ce soit plus clair que le résultat est déterminé à la majorité simple. Thomas Schneider prend la parole, l'Australie et puis l'Autriche. L'Australie prend la parole. Merci, Monsieur le Président. Je crois que dans la liste de l'Espagne, je crois que le texte de proposition, le texte suggéré est celui que l'on voit sur l'écran, donc nous n'aurions pas de problème à ce que cela soit adopté. Merci. Thomas Schneider prend la parole. C'est-à-dire que la partie surlignée en bleu, on la supprimerait. L'Australie prend la parole, oui, oui. Thomas Schneider reprend la parole, l'Autriche. L'Autriche prend la parole, merci. Une question. Non, pour le principe 32, le dernier paragraphe dit, au cas où il y aurait une deuxième série d'élections, seuls les membres du GAC présents dans la réunion peuvent participer. Alors là, on élimine le vote en modalité électronique. Supposons qu'il y a moins d'un tiers des membres présents. Cela signifierait que nous ne pourrions pas avoir de second tour. Cela devrait se passer. Comment les choses vont-elles se passer? Si nous parlons d'un vote à modalité électronique et qu'il y a un deuxième tour et il n'y a pas suffisamment de membres ici présents, qu'est-ce que nous allons faire? Tracy Hind, ben, c'est une très bonne question. Oui, il faudrait que nous revoyions ça, que nous révisions cela. Cela vient des principes opérationnels existants lorsqu'on parle d'un tiers des membres présents. Thomas Schneider prend la parole. Ce que nous pouvons faire, c'est que pour le second tour, nous disions que nous avons besoin d'un tiers des votes des membres en présence. Donc maintenant, la Nouvelle-Zélande et l'Égypte. La Nouvelle-Zélande prend la parole. Merci, Monsieur le Président. Je crois que c'était l'une des propositions ou des commentaires de l'Espagne lorsque nous avons proposé que si la proposition du principe 35 qui permet la votation en modalité électronique au second tour sera autorisée, pour ce cas particulier, il faudrait aussi modifier le texte pour dire que pour le second tour, nous pourrons aussi nous servir des moyens électroniques. Thomas Schneider prend la parole, donc nous allons continuer à travailler sur ce paragraphe jusqu'à ce que nous voyons par rapport au principe 35, autrement nous allons le modifier. Maintenant, l'Égypte prend la parole. Moi, j'allais ajouter quelque chose à ce que l'Autriche avait demandé. Que se passe-t-il si nous avons des participants à distance pour une réunion en particulier? Est-ce que nous allons limiter cela aux gens qui sont ici présents, même si nous avons des participants à distance? Merci. Thomas Schneider prend la parole. Merci. Je crois qu'il va falloir en débattre lorsque nous parlerons du principe 35. Le principe 32 fait l'objet de notre accord, sauf la dernière partie une fois, qui sera résolue une fois que nous aurons discuté du 35. Maintenant, nous avons le principe 34. Tracy Hine prend la parole. Le principe 34 dit que cela inclut une modification très importante qui dit, au lieu de dire par courriel, on dit en modalité électronique parce que ce ne sera pas par courriel, mais par un outil qui sera en ligne. Voilà donc la modification qui est une modification importante. Thomas Schneider cède la parole à l'Iran. L'Iran prend la parole. Voter par modalité électronique signifie qu'il faut que nous ayons une autorisation de celui qui vote, qui émet sa voix. C'est un point fondamental pour les membres. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse envoyer le vote, parce qu'autrement, c'est n'importe qui peut voter. Est-ce qu'il y aura des contrôles? Est-ce que nous pourrons identifier l'origine de cette voix? Tracy Hine prend la parole. Oui, cela existe. Dans le prochain point de l'ordre du jour, en fait, le deuxième point, la deuxième partie de ce point, lorsque nous allons parler de procédure d'élection des vice-présidents, il y a une présentation où l'on vous démontre comment fonctionne cet outil d'élection électronique. L'ICANN l'a acquis et nous allons l'utiliser pour l'heure. Et cet outil a beaucoup de sauvegardes en ce qui concerne la traçabilité et la gestion des élections. Mais disons que c'est la deuxième partie de ce même point. Thomas Schneider prend la parole. Merci, Tracy. Nous pouvons aussi, nous pouvons nous servir d'un moyen électronique dans l'avenir.
l'idée d'introduire cette modalité électronique, c'est pour ne pas avoir à modifier encore une fois ce principe dans l'avenir. L'Indonésie prend la parole maintenant. Merci, Monsieur le Président. Je crois que pour le système électronique, le secrétariat devrait configurer un système sécurisé pour l'élection. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec les élections directes du représentant du GAC ? Parce qu'il se peut que pendant la réunion, le représentant du GAC apparaisse dans la liste du secrétariat comme s'il était présent, mais qu'il n'était pas là, et qu'il était représenté par un autre collègue de ce même pays. Dans ce cas-là, donc, comment cette personne qui représente un membre du GAC pourrait-elle voter? Tracy Hunt prend la parole. Bon, la réponse y est décrite dans le prochain document, dont le titre est « Processus d'élection des vice-présidents du GAC en 2015 ». Je ne sais pas si vous serez satisfait de cette proposition ou pas, mais disons que tous ces cas-là sont abordés dans le prochain document et pas dans celui-ci. Thomas Schneider prend la parole. Nous allons en reparler. Et pour ceux qui ont participé à la réunion de Los Angeles, l'on avait demandé d'avoir un nom dans la liste, vérifier des membres du GAC. Si le nom de la personne n'était pas dans la liste, il ne pourrait pas voter. Mais nous allons aborder ce thème encore une fois après. Tracy Hine prend la parole. Oui, dans la prochaine séance, dans le prochain document, nous avons une section concernant l'éligibilité. Bon, Thomas Schneider, bien. Maintenant, nous allons nous occuper des modifications au principe 34. Des objections? Non? D'accord. Bien, 35 maintenant. Qui veut commencer? Quelqu'un parmi ceux qui ont proposé les modifications, la Nouvelle-Zélande ou l'Espagne? L'Allemagne. L'Allemagne prend la parole. Merci. J'ai des questions, enfin plutôt des commentaires. Pourquoi avons-nous une période de 21 jours avant l'élection pour pouvoir émettre notre voix? Pourquoi cette période de 21 jours? Ne pourrait-on pas avoir un ou deux jours juste avant l'élection pour pouvoir émettre nos voix, pour voter? Est-ce qu'il s'agit d'un problème technique? Comment en est-on venu à cette période de 21 jours? Merci. Tracy Hine, non, ce n'est pas une question d'ordre technique. C'est tout simplement que on le fait pour garantir à tout le monde d'avoir suffisamment de temps pour... Enfin, pour les membres du GAC, nous avons pensé une période plus longue. Si le GAC décide dans son ensemble d'avoir une période plus courte, bon, d'accord, pas de problème là-dessus. Thomas Schneider prend la parole. Oui, je vais maintenant céder la parole au Paraguay. Il y avait une période pendant laquelle on pouvait voter en modalité électronique avant, nous pouvons le changer, mais c'est pour nous assurer que si ce n'est pas dans ce jour en particulier, il n'y a pas eu d'alimentation électrique parce qu'il y a eu un orage. Enfin, c'est tout simplement pour avoir davantage de temps pour pouvoir émettre son vote, sa voix de façon électronique ou d'autres raisons. Voilà donc le raisonnement qui a été suivi pour avoir suffisamment de temps pour que si quelqu'un était en vacances ou hospitalisé ou quoi que ce soit, qu'il ou elle puisse voter. Le Paraguay maintenant, s'il vous plaît. Le Paraguay prend la parole. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais dire que nous sommes d'accord avec l'Allemagne. Nous passons qu'entre 3 et 5 jours. Ce serait enfin suffisant. 21 jours, c'est un peu trop long pour nous. Merci, Monsieur le Président. Thomas Schneider prend la parole. Merci, l'Allemagne. L'Allemagne prend la parole. Nous pourrions peut-être avoir une précision là-dessus. Je crois comprendre qu'il y a deux possibilités pour le vote électronique. D'abord, une émission de vote électronique en ligne pratiquement, et cela peut nous aider par rapport à ce que Christian a demandé avant. Que se passe-t-il s'il y a un second tour et qu'il n'y a pas suffisamment de membres présents pour avoir le quorum? Il se peut que les gens soient disponibles en ligne, mais ils ne pourraient pas voter. Alors, je crois que ce serait utile de pouvoir disposer de cet outil en ligne pour qu'ils puissent voter en ligne pendant la période d'élection. Ma deuxième question est la suivante. Si l'on peut voter en avance, on a besoin d'une période appropriée pour pouvoir le faire. Mais là, la question est de savoir si nous avons besoin de 21 jours ou de savoir si cette période peut être écourtée. Espérons que personne n'aura de séisme pendant 21 jours ou des choses de ce type, non? Thomas Schneider prend la parole. Merci. Vous avez raison. En ce sens que s'il y a un système de vote électronique, tous, quelle que soit leur position physique, on peut voter très rapidement, en quelques secondes ou en quelques minutes, et on n'a pas besoin de toutes ces jours, de cette période si longue préalable. Mais il se peut qu'il y ait le cas d'une personne un représentant du gars qui ne puisse pas se servir de cette période. Voilà pourquoi nous avons réfléchi là-dessus. La dernière fois à Los Angeles, il y a eu une période semblable pour ceux qui ont émis leur vote en modalité électronique. Et ensuite, il y a eu un vote en modalité en présence avec une ligne qui a été faite pour déposer son bulletin de vote physique. L'un d'eux était instantané, était physique, et l'autre était fait en modalité électronique avec une période déterminée. Bien sûr, nous pouvons réduire le nombre de jours, mais c'est jusqu'à 21 jours. Et si quelqu'un en a besoin, ce n'est pas qu'il faut enfin coller à ces 21 jours, ou enfin il peut le faire 10 jours avant ou 5 jours avant, mais on dit jusqu'à 21 jours pour pouvoir matérialiser cette élection dans la mesure. Nous pouvons dire 5 jours, mais nous avons dans les principes opérationnels jusqu'à 21 jours. L'Égypte prend la parole. Merci, Monsieur le Président. J'ai un peu l'impression que nous mélangeons deux thèmes ici. La durée, d'une part, de la période de vote, c'est 21 jours. Est-ce que nous allons cesser de voter 21 jours avant la réunion, c'est ça? Parce que tous les membres auront l'occasion d'émettre leur voix jusqu'à 21 jours avant la réunion. Voilà donc la durée de cela. C'est le moment où l'on interrompt ou c'est la durée? Thomas Schneider prend la parole. Non, c'est la date de départ ou de début. Vous pouvez commencer à voter 21 jours avant l'élection. L'Égypte prend la parole. Voilà ma première question. Donc, la deuxième question concerne la phrase où l'on dit « Le vote sera possible, devra être possible pendant la réunion pertinente ». Est-ce que cela concerne un second tour au cas où il y aurait une égalité de voix pour les candidats ou c'est des voix supplémentaires pour le même tour? Tracy Hine prend la parole. Merci. Avec du recul, nous devrions peut-être mettre ces deux éléments dans l'ordre du jour. Si vous considérez un tout petit peu le document suivant, là où l'on dit élection, l'on dit que les votes devra avoir lieu en modalité électronique de manière secrète entre lundi 28 septembre et lundi 19 octobre. Cela comprend une période qui commence avant la réunion de Dublin et quelques jours pendant la réunion de Dublin. Voilà donc la durée pour les deux cas. Pour ceux qui participent à distance et ceux qui sont présents
dans la réunion pour qu'ils le fassent comme ce sera le plus facile pour eux dans le temps et dans l'espace pour émettre leur voix pendant l'élection. Thomas Schneider prend la parole. Merci Tracy. Ce serait peut-être bien de présenter une proposition concrète et puis de voir les points pratiques au lieu de voir des choses plutôt théoriques pour pouvoir passer la considération des aspects opérationnels après la présentation. Cela nous aiderait peut-être à faire les choses plus facilement.
Royaume-Uni, merci Monsieur le Président. Mais pour ce qui est de l'observation de l'Égypte, il va falloir modifier le texte pour clarifier l'intention, je crois, parce que la manière de le comprendre, quand on le lit, il semblerait que l'on parle d'une date de fin, que l'on peut émettre le vote jusqu'à 21 jours avant. Alors, on pourrait dire peut-être émettre les votes dans une période qui commence 21 jours avant la réunion. C'est peut-être plus clair. Merci beaucoup, Thomas Schneider. Merci beaucoup aux anglophones. Si vous êtes d'accord, je ne veux pas continuer à discuter le texte maintenant. Je vous demande d'entendre la présentation sur les mécanismes proposés concrètement pour les prochaines élections. Ceci va nous aider à comprendre la logique et puis on peut analyser le texte lui-même. C'est OK? Vous avez quelque chose à dire? OK. Alors, après la présentation, la parole vous appartiendra. Tracy Hinn, Julia, peut-être tu peux afficher la présentation sur l'écran. Pendant ce temps, je vais lire. Ah, ça a été vite fait, alors pas besoin de lire ailleurs. Merci, Julia. Cette présentation fait référence au processus d'élection pour les vice-présidents, c'est-à-dire qu'ici, nous voyons la manière de mener à bien ces élections avec les changements des principes opérationnels que nous avons essayé de décrire de manière théorique. Alors, peut-être il vaut la peine de voir cette proposition. Diapo suivante, s'il te plaît. Julia, merci. Comme vous le savez, le GAC nomme les vice-présidents annuellement et on propose de faire le changement de 3 à 5 vice-présidents. Il y a une convocation pendant la session du GAC pour la présentation de nomination. C'est un appel à présentation de nomination formelle pour les vice-présidents. Pas en ce moment, mais avant la clôture de la séance, on demandera les nominations et cette période sera close le 17 août. S'il y a moins de 5 candidats qui se présentent comme candidats pour les vice-présidences du GAC, alors là, on ne fera pas d'élection. S'il y a plus de 5 candidats, alors là, oui, il faudra faire les élections. S'il y en a moins, on ne les fera pas. Alors, nous proposons que l'élection soit faite pendant la réunion de Dublin et même avant, de la manière dont nous avons décrit, avec ces dates en particulier pour émettre les votes entre le 22 septembre et le 29 octobre. Le 29 octobre, c'est le mercredi de la réunion de Dublin. Alors, les 5 candidats ayant obtenu la plupart des votes seront élus comme des vice-présidents. Voilà la mise en place pratique des changements que nous voulons refléter. Il y a aussi un outil en ligne. Peut-être pourrons-nous revenir aux principes opérationnels, mais on va utiliser un outil en ligne, pardon, que l'ICANN mettra en place pour ce processus d'élection. C'est une procédure certifiée. Elle a été testée entre le personnel de soutien. Et nous avons vu que ça marche bien, que l'utilisation est simple. C'est un outil disponible en plusieurs langues, ce qui est vraiment bien. Et une personne ne peut voter qu'une fois et ceux qui reçoivent l'invitation pour voter, ce sont les seules personnes qualifiées pour émettre le vote. Ceci a trait à la question de l'Iran sur la condition pour voter. Les processus que vous voyez là, vous allez les recevoir par courrier électronique. Nous disons qu'il y a des élections pour les vice-présidents de GAC. Il y aura un courrier par personne. Alors, si vous ne le recevez pas, vous ne pourrez pas voter. Vous aurez toutes les références avec les personnes qui sont en condition de voter. Vous cliquez sur le lien qui apparaît dans votre courrier. Et là, vous pourrez accéder à l'outil en ligne qui va confirmer vos 5 votes pour être sûr que ce sont vos candidats. Par la suite, vous recevrez un justificatif par courrier. Ça, vous n'allez pas le voir, mais c'est l'invitation que vous allez recevoir par courrier électronique. Il y a certaines phrases sous la ligne rouge qui dit « Bon, les élections approchent, veuillez cliquer sur le lien et... » Alors là, c'est établi que ceci n'est adressé qu'à l'adresse électronique indiquée. Ceci est pris de la liste de diffusion du GAC. Alors, il est très important que vous connaissiez tous les détails. Ceci aussi est difficile à voir sur l'écran, mais j'espère que vous pourrez le voir. Voilà cette information fictive que nous avons mise pour faire un essai. Et là, il y a 10 candidats qui se présentent théoriquement à ces élections. Et si vous ne voulez pas sélectionner le nom, vous ne faites que mettre une croix à côté. C'est très facile. Pardon. Vous mettez la croix pour les personnes que vous voulez sélectionner. Et dès que vous aurez émis votre vote... Et ce sont des données fictives. Alors, vous allez voir les candidats. Vous pouvez les confirmer ou les corriger. Et après cela, vous allez recevoir un courrier avec un justificatif indiquant le nom des candidats que vous avez choisis pour, par la suite, faire le compte des votes. Après avoir fermé cette séance aujourd'hui, nous allons lancer une convocation pour la présentation de nomination. La période sera ouverte et la période sera clôturée le 17 août. Je ne sais pas si Thomas veut passer à ce processus ou si je continue avec les présentations. Je vais finir. OK. Alors, la période de nomination ouvre aujourd'hui. Elle sera clôturée le lundi 17 août. Les nominations sont envoyées par courrier électronique. Vous me les envoyez à moi. Ici, vous avez l'adresse qui est incluse dans le document que vous avez reçu. Vous mettez le nom et le pays. Vous pouvez vous nommer vous-même, etc. Il n'est pas nécessaire que cela soit public à l'étape initiale. Dès que l'on aura toute la liste des personnes, des candidats, alors la CIG, sous la direction de la présidence, fera une liste des personnes présentées comme candidats pour ces élections suivant les principes opérationnels. Cette liste sera incluse dans le site web et elle sera publiée le 31 août. Cette liste qui sera là le 31 août vous donnera un mois pour réfléchir avant de voter entre le 28 septembre et le 29 octobre. Voilà le système électronique. C'est la mise en place pratique des modifications que nous essayons d'incorporer aux principes opérationnels. Et voilà donc la proposition pour vous. Idéalement, nous voudrions que tous les votes soient faits électroniquement pour deux raisons. Premièrement, parce que c'est quelque chose d'intérêt personnel à nous, parce que ceci facilite administrativement le compte des votes d'une seule source au lieu de deux sources. C'est un vote électronique et pas physique. Alors, tout le monde voterait à travers le même système. Et deuxièmement, pour la validité, il y a un taux d'erreur bien plus faible pour le compte des votes. On peut éviter des erreurs de perdre un vote. Hein. C'est plus facile électroniquement qu'avec des élections physiques sur papier. Alors, ce serait idéal, mais c'est à vous de le décider, pas à nous. Voilà les changements que nous avons fait aux principes opérationnels. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Thomas Schneider, merci. Des questions, des commentaires, la Commission européenne, puis l'Iran, et je prends note, l'Égypte, le Vietnam. Le Royaume-Uni, les États-Unis, la Commission européenne prend la parole. Merci de votre explication. Bien entendu, nous soutenons le vote électronique. Nous considérons que c'est moderne pour ce type d'organisation qui fait référence à toutes les questions d'Internet. Alors, nous encourageons son utilisation. Le seul problème, c'est que ceci ne serait pas cohérent avec ce qui apparaît dans les principes opérationnels, parce que le principe 35, que je crois que vous l'avez sauté finalement, vous êtes passé au 36 directement. Là, on dit que les votes seront émis en personne et le secrétariat du GAC distribuera des bulletins d'élection aux membres. Et là, on parle qu'il n'y aura pas de vote en personne. Alors, je crois qu'il faut consolider cela, éliminer le deuxième paragraphe du principe 35, parce que s'il y a une égalité, il faudra revenir au vote électronique et accepter le vote électronique. Alors, on ne va pas l'accepter. Voilà la première chose à dire. Vous allez permettre les votes en personne. Voilà pourquoi nous avons posé cette question par rapport au paragraphe 36. C'est une question d'interprétation juridique. Si vous établissez un délai, une limite, il faut s'ajuster à ce délai. Mais il y a aussi la possibilité de voter en personne pendant la réunion. Alors, il faut clarifier exactement ce que vous voulez dire. Je veux quelque chose de clair et que le vote électronique soit utilisé. Autrement, le message est contradictoire. Tracy, je peux répondre? Oui, Tracy Hines, je comprends parfaitement de quoi vous parlez. Dans le document écrit contre la présentation en PPT, il y a une section qui dit égalité. S'il y avait l'égalité pour déterminer la cinquième vice-présidence, eh bien, on fera un vote en personne pendant la réunion de Dublin et le deuxième vote sera restreint au candidat qui est obtenu l'égalité pour le poste qui est toujours vacant. Cela fait référence au principe 36 et à cette question. Il n'est pas nécessaire que ce soit en personne si nous ne le souhaitons pas. On peut le faire, faire le vote électronique. Hein. C'est au GAC de décider. Iran, merci, Monsieur le Président. Pour ce qui est du principe 36, comme Marc l'a signalé, c'est la rédaction ce qui pose des problèmes. Au lieu de dire jusqu'à 21 jours avant, peut-être on pourrait dire 21 jours avant, tout simplement. Deuxièmement, pour ce qui est de la deuxième ligne, le vote sera rendu possible. Pardon, c'est-à-dire, dans beaucoup de pays, il y a des votes électroniques, mais on continue d'accepter le vote physique. C'est trop tôt pour parler d'éliminer la possibilité du vote physique. Il nous faut davantage d'expérience pour voir comment fonctionne le système électronique. Dans des pays que je connais, on a commencé avec le vote électronique il y a 5 ou 6 ans et ils permettent toujours les votes physiques le jour des élections, lorsqu'ils se réunissent dimanche ou n'importe quand. Et ils comptent les votes l'après-midi. Alors, c'est peut-être trop prématuré de parler d'éliminer le vote physique. Le vote physique démocratique est un droit Et alors, il faudrait conserver cette possibilité pour l'instant. Nous devons attendre et évaluer l'expérience et éviter de tirer des conclusions à toute vitesse. Thomas Schneider, merci. Une réponse courte. Je crois que vous avez raison. Si l'on maintient les deux options dans les principes opérationnels, de toute manière, d'une élection à une autre, on peut décider de n'utiliser qu'un des deux systèmes. Le vote électronique ou peut-être le vote électronique pour la première série et en cas d'égalité, un vote physique. On pourrait donc maintenir les deux options dans notre texte et puis l'appliquer au cas par cas. Je passe la parole à l'Espagne et puis l'Égypte. L'Espagne. Merci. En réalité, ce que j'allais dire a déjà été dit. Alors, ce serait peut-être bien de maintenir la flexibilité du texte, parce qu'à chaque fois que nous allons décider la méthode à utiliser, eh bien, on aura la possibilité de le faire. Et aussi, il faudrait penser à permettre que de nouveaux membres qui se présentent dans la réunion pour la première fois et qui n'ont pas participé tout le temps dans la liste de diffusion du GAC avant la réunion. Alors, je crois qu'il faudrait considérer ces situations exceptionnelles. Et puisque j'ai la parole en ce moment, je voudrais dire quelque chose par rapport à l'égalité dans le vote et la question posée par l'Autriche. Je crois que le GAC a un quorum d'un tiers de ses membres pour toutes les réunions. Alors j'imagine ou je suppose que si l'on fait des élections et il y a une égalité, il y aura un tiers des membres présents dans la réunion. Merci. Merci l'Espagne, l'Égypte. L'Égypte, merci Monsieur le Président. En fait, j'ai 4 points à signaler. Je suis désolée, mais soyez patient avec moi. Premièrement, je crois que les personnes nommées, les candidats, les noms des candidats ne seront pas publics jusqu'à la fin. Il y a une raison spécifique pour cela. Voilà ma première question. Deuxièmement, Thomas Schneider, pardon, je vais répondre très brièvement. Bien entendu, tout candidat présenté peut être publié, mais s'il y a quelqu'un qui ne souhaite pas que les données soient publiques, le secrétariat ne va pas le publier à son insu. L'Égypte. Alors, ça dépend de chacun. Schneider, oui. L'Égypte. Pour ce qui est de la deuxième série, je ne sais pas pourquoi, si nous avons un système en ligne, pourquoi on va le restreindre au vote en personne s'il y a d'autres membres qui peuvent être disponibles sans vouloir participer de la deuxième série à distance. Je crois que cela, il ne faudrait pas le restreindre. Troisièmement, un point qui a trait à la distribution géographique. Le principe 21, je crois qu'il mentionne la question, c'est-à-dire la question est mentionnée dans un autre document qui dit « Dans la mesure du possible, les vice-présidents doivent refléter de manière appropriée la diversité géographique ». Je ne sais pas si ce principe est appliqué. C'est-à-dire, je vois ça comme une question de vote, tout simplement. Alors, même s'il y a l'égalité, on va aller dans une deuxième série. Alors, faudrait-il donner la priorité ou la préférence à une région qui ne soit pas représentée? Et mon dernier point a trait au candidat. Il doit envoyer son nom et son pays. Et je suggère d'envoyer la région ou les régions que ce candidat représente. Merci, Thomas Schneider. Merci, Manal. Pour ce qui est de ta deuxième question, je crois qu'il n'y a pas de raison pour laquelle il ne faudrait pas utiliser le même outil électronique pour la deuxième série. Alors, je crois que nous allons prendre ce principe pour la prochaine élection. Je crois que ça va marcher. Quant aux régions, le problème, c'est que nous, au GAC, on n'a pas de région. Ce concept n'existe pas de manière que l'on puisse utiliser. Il peut y avoir une notion un peu diffuse de la représentativité, pas de la représentativité, mais de la diversité. Mais nous, on n'a pas les 5 régions au fin de la représentation. Peut-être on pourrait voir cela et le modifier, mais à l'heure actuelle, ça n'existe pas. L'Égypte, mais nous, on a le principe et on fait une référence à ce principe. C'est le principe 21. Alors, ce que je veux dire, c'est que il ne doit pas s'agir forcément des régions, mais si on ne sait pas à quel pays on appartient, etc., je crois que ce serait pour du bien, ça. Si le candidat représente une région, et même plus d'une région, Thomas Schneider. Merci. Ici, je vois que on dit que cela reflète la diversité du développement et de géographie. La diversité géographique. On ne parle pas de région. Alors, si on continue dans cette ligne, je crois qu'on n'arrivera nulle part. Alors, ceci ne fait pas partie de ce que l'on propose en ce moment, parce que le concept de région ou de développement, si l'on va débattre ça, alors on va rester là jusqu'à jeudi, hein. Alors, on peut signaler cela. Et Henri peut s'occuper de faire quelque chose là-dessus, mais pas mettre noir sur blanc la question des régions. L'Égypte prend la parole. Je ne dis pas de mentionner les régions ni de leur donner un nom, mais ce que je dis, c'est que lorsqu'il existe un candidat, il faut voir à quelle région il appartient et le dire, tout simplement. Merci. Thomas Schneider. Maintenant, j'ai dans ma liste le Vietnam, puis le Royaume-Uni, et puis les États-Unis et l'Iran. Le Vietnam, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Pour pouvoir aider les membres à choisir la personne correcte pour occuper le poste de vice-président, on pourrait demander aux candidats d'envoyer un courrier électronique aux membres du GAC pour se présenter, pour dire de qui il s'agit, pourquoi ils ou elles veulent être des vice-présidents, quelles sont ses prévisions, etc. Thomas Schneider. Oui, c'est ce qui se passe normalement quand quelqu'un présente sa candidature. Merci. Le Royaume-Uni. Merci, Monsieur le Président. Sur ce point de l'ambition d'arriver à la diversité géographique, je comprends bien ce que l'Égypte a voulu dire dans l'élection de Los Angeles. Après avoir consulté en interne mon vote, mon plan de vote, tenait compte de la diversité géographique et aussi de l'équilibre de genre qui n'est pas mentionné dans les principes. Autre chose que nous pouvons faire, c'est dans la lettre aux électeurs, leur envoyer un rappel sur notre volonté d'avoir un équilibre géographique, de sorte que les candidats nommés représentent le plus possible les différentes régions géographiques et que nous puissions tous atteindre notre objectif. Merci. Schneider, merci. Je veux vous rappeler que nous voulons accorder des modifications mineures aux principes opérationnels. Le reste vous sera communiqué à partir du secrétariat pour voir s'il y a des choses que l'on peut changer ou pas. Mais oui, nous prenons note de votre commentaire et de tout ce ayant trait au genre, à la diversité géographique. On a pris dûment note. Mais maintenant, nous voulons arriver à un accord sur des modifications mineures. Et si on commence à débattre sur des questions qui ne sont pas incluses dans les principes, eh bien, ce sera trop long. Je crois que c'est déjà l'heure de la pause café. J'ai maintenant les États-Unis, les Pays-Bas, l'Iran. J'avais oublié. Et puis le café. Les États-Unis.
I have spoken before me. In particular, Egypt and Vietnam, I think they have raised some very, very important points for us to actually embrace, not just sort of take note of. I really do think they have to be fully taken into account. And I think your comment just now suggests that this was the challenge that several of us flagged in Los Angeles as a result of the elections at that moment. It is very, very challenging to choose or to attempt to choose to amend very specific portions of the operating principles and to not adopt a holistic approach. Because as we are quickly finding out, they're all interrelated. Many of the key provisions in the operating principles are interrelated. The Secretariat herself must have used the word eligibility to vote more times than I could possibly count. That is precisely the point that the United States and several other colleagues raised during the Los Angeles elections, that it is absolutely imperative, if we are going to hold elections, we will have to tackle the issue of who is eligible to vote in those elections. The two cannot be separated and bifurcated, and kicking the can to some subsequent future election, simply delaying decisions that absolutely need to be taken. So I'd like to go on the record very firmly again that we do not believe it's possible to make these minor amendments to increase the number of vice chairs from 3 to 5, which the United States fully supports.
Président, de 3 à 5, et c'est vraiment quelque chose que les États-Unis soutiennent parce que nous soutenons cela. C'est cependant un grand défi que de tenir compte de la réalisation des élections sans tenir compte du problème dont j'espère que le secrétariat se souviendra, de celui qui est en position d'émettre son vote. À Los Angeles, on a soulevé cette question avec ses différentes interprétations sur les dispositions liées à ceux qui étaient des membres, parce qu'il se peut qu'il y ait 2 organisations régionales intergouvernementales qui croient avoir la qualité de membre, qui croient être éligibles ou qui ont la capacité pour émettre le vote. Et il y a d'autres organisations intergouvernementales qui n'en ont pas. Nous avons compris à Singapour qu'au moins l'un de nos collègues, a demandé de manière formelle ou informelle, je ne me souviens pas, pour changer sa condition en tant que OIG pour devenir un membre à part entière. Il y a aussi des dispositions concernant les observateurs, concernant les OIG, ce sont les principes 15 et 18, qui ne sont pas à jour et devraient être mis à jour. Il me semble donc que ce serait fondamental de réviser les principes opérationnels, toutes les dispositions clés qui doivent être reflétées là avant la prochaine élection. À notre avis, donc, nous nous inquiétons vraiment au point de vue politique et nos inquiétudes sont importantes pour que les organisations intergouvernementales dont les membres sont membres du GAC ne puissent pas voter parce qu'il y a quelque chose que l'on appelle le caractère supplémentaire. Je crois que c'est injuste. Thomas Schneider a pris la parole. Merci les États-Unis. Je crois que ce que vous avez signalé est très clair. Je crois que nous avions accepté de modifier le nombre de vice-présidents il y a 15 minutes. Nous avons accepté cela. Déjà, est-ce que nous avons la possibilité de ne pas nous mettre d'accord sur ces modifications mineures pour les procédures, pour les élections, pour émettre son vote tel que cela a été fait à Los Angeles, avec certains effets de moindre importance qui reflétait l'insatisfaction des gens, mais c'est entre vos mains de décider cela. Nous ne sommes pas obligés de décider de cela aujourd'hui. Nous pouvons le faire jeudi. Mais la décision concernant le nombre de vice-présidents a déjà été prise. Cela a été modifié et l'on aura 5 vice-présidents. Nous allons faire la pause café. Merci beaucoup à vous tous.